Simplement, j'ai laissé venir à moi les idées qui me venaient à propos, par exemple, de l'expression « je t'aime ».
Ça fait réfléchir, l'émission philosophique de Radio Campus Amiens.
Bonjour tout le monde, vous écoutez Radio Campus Amiens 87.7 FM et nous nous retrouvons pour le 9e épisode de l'émission « Ça fait réfléchir », l'émission philosophique animée par moi-même, Julien, votre serviteur. Vous pourrez toujours retrouver cette émission sur radiocampusamiens.fr et sur le DAB+. Pour commencer, je vous propose un bref rappel à propos de l'épisode précédent, dans lequel nous avons discuté de l'usage du mot étrange « kouakoubé ». Nous avions interrogé la signification de ce mot, de la signification des mots en général. Nous avions aussi mis en avant le caractère générationnel du terme, du positionnement de la jeunesse par rapport à la norme de la langue française, admise, claire, etc. Aujourd'hui, je vous propose une émission spéciale « Bac de philo », dans lequel nous allons revenir sur les sujets que les élèves de terminale générale et technologique ont traités mardi dernier. Nous allons essayer de comprendre un peu les enjeux de ces sujets, en essayant de voir en quoi ils peuvent être intéressants pour nos vies, même si on ne fait pas habituellement de la philosophie. Pour cet épisode, nous allons lire et discuter les sujets que les élèves ont traités pendant l'épreuve de philosophie, en montrant l'intérêt de la réflexion sur ces thèmes et les rapprocher de nos vies ordinaires, en essayant de s'écarter un petit peu du schéma académique ou universitaire. Encore une fois, l'idée est de montrer que la philosophie n'est pas réservée à certaines personnes, mais qu'on peut en faire toutes et tous. Les sujets du bac vont peut-être même, je l'espère, évoquer ou susciter certaines choses intéressantes en vous. Tout d'abord, revenons un petit peu sur les modalités de l'épreuve. Comment ça se passe? Les bachelières et les bacheliers, toutes celles et tous ceux qui préparent le bac, traitent pendant 4 heures au maximum un sujet au choix parmi 3 sujets proposés. La candidate ou le candidat a le choix entre 2 sujets de dissertation, c'est-à-dire une question à la fois précise et large, et un sujet d'explication de texte, c'est-à-dire un texte plus ou moins long. Les 3 sujets se rapportent au thème du programme qui ont été étudiés pendant l'année. 17 notions pour les terminales générales et 7 notions pour les terminales technologiques. Comme les terminales générales ont 4 heures de philo par semaine et les terminales technologiques seulement 2 heures, les 2 programmes sont relativement différents. Toutes les candidates, tous les candidats, qu'ils soient en général ou en technologique, et malgré les différences de programme, ont le choix entre 3 sujets, une dissertation sur 2 ou un texte. Ils traiteront un sujet qu'ils auront choisi selon la méthode qui aura été apprise en classe. En effet, répondre à un sujet de dissertation ou d'explication de texte ne se fait pas n'importe comment, en tout cas au lycée. Il existe une manière plus ou moins formelle, plus ou moins cadrée, de traiter les sujets, notamment en faisant une introduction dans laquelle on présente un ou le problème que le sujet pose, puis un développement dans lequel on détaille les enjeux philosophiques des sujets, et finalement une conclusion dans laquelle on synthétise les propos tenus dans la copie. C'est dans la méthode des exercices philosophiques que réside l'une des différences majeures entre la philosophie que l'on fait à l'école et la philosophie que l'on fait en dehors de l'école. Chacune et chacun de nous peut philosopher, peut faire de la philosophie, mais l'école enseigne une méthode, c'est-à-dire une manière générale et plus ou moins uniforme de régler la pensée philosophique. Nous ne pouvons pas non plus définir la philosophie par sa méthode, parce qu'elle a parfois subi des changements, des transformations et des contradictions durant son histoire. Et même d'une culture à une autre, on ne fait pas de la philosophie de la même manière. De toute façon, nous ne sommes jamais arrivés à définir véritablement ce que c'est que la philosophie et faire de la philosophie. Revenons à notre sujet d'aujourd'hui, les sujets du baccalauréat. Plaçons-nous à la place des candidates et des candidats et regardons un peu les sujets. Nous n'aurons pas 4 heures, hein, comme elles et eux, bien sûr. Donc, les sujets du bac général sont les suivants. La science peut-elle satisfaire notre besoin de vérité? L'État nous doit-il quelque chose? Et un texte de Simone Veil, issu de son livre « La condition ouvrière » de 1943. Et les sujets du bac technologique sont les suivants. La nature est-elle hostile à l'homme? L'artiste est-il maître de son travail? Et un texte de Platon, issu de son livre « Les lois » datant du IVe siècle avant Jésus-Christ. Nous allons tout d'abord nous pencher sur les sujets du bac général, puis sur ceux du bac technologique. Premier sujet du bac général donc, la science peut-elle satisfaire notre besoin de vérité? Voilà à quoi ressemble un sujet de dissertation en terminale. Ce n'est évidemment pas une question qu'on se pose tous les jours, bien sûr. Pourtant, pour peu que l'on réfléchisse un petit peu sur sa vie, nous pouvons voir que ce sujet nous invite à quelques considérations assez importantes. Que ce soit dans l'espace social ou bien dans la vie intime, nous rencontrons assez couramment la vérité, ou bien ses opposés, voire ses ennemis, à savoir l'erreur et le mensonge. Quand je parle à un ami sur un sujet sensible, sérieux ou profond, j'aimerais qu'il me réponde vraiment, et non qu'il me mente ou bien qu'il m'invite à faire des erreurs. Ce que je veux, c'est la vérité. Comme si c'était la meilleure façon de vivre, de parler à des gens, d'entretenir des relations sociales saines, etc. etc. Bref, comme si j'avais un besoin de vérité. Que fait donc ce sujet de dissertation ? La science peut-elle satisfaire notre besoin de vérité ? Nous invite à mettre en valeur deux choses. Premièrement, l'idée que la vérité se rapporte à un besoin. Un besoin, c'est ce que je dois satisfaire, comme manger, boire, dormir, etc. Deuxièmement, ce sujet nous invite à penser ce besoin de vérité comme pouvant éventuellement être satisfait par la science. La science, pour le dire assez grossièrement, c'est l'ensemble des connaissances sur quelque chose. Dans la vie de tous les jours, quand je discute avec un ami, il suffit qu'il me dise la vérité pour que mon besoin de vérité soit satisfait. Mais ce besoin très spécifique de vérité, va au-delà des simples discussions. Je veux peut-être aussi connaître les choses qui m'entourent, l'origine des choses, pourquoi elles existent, etc. etc. Ce qui nous invite à l'illustre débat entre la science et la religion. En effet, même si la science peut satisfaire notre besoin de vérité, peut-elle totalement le satisfaire ? En effet, même si la science peut satisfaire notre besoin de vérité, peut-elle totalement le satisfaire ? Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi faire intervenir un questionnement religieux sur le pourquoi de l'univers, etc. etc. Voici le genre de questions que ce sujet pourrait nous inviter à poser. Passons au deuxième sujet. L'État nous doit-il quelque chose ? Ce sujet renvoie à des questionnements beaucoup plus concrets, beaucoup moins abstraits que ceux du sujet précédent sur la science et la vérité. Les élections européennes, les futures élections législatives et la politique du gouvernement en général nous invitent peut-être plus directement à questionner le rôle de l'État dans nos vies. Que fait donc ce sujet ? Il met en rapport l'État, qui est classiquement défini comme l'ensemble des institutions politiques d'un pays, avec ce qui pourrait être son devoir à notre égard, c'est-à-dire ce qu'il semble impératif de faire pour nous. De ce point de vue, l'État aurait des comptes à rendre aux citoyennes et aux citoyens, parce que quand je dois quelque chose à quelqu'un, c'est peut-être parce qu'il y a une dette. Mon ami m'a rendu un service, et parce que c'est mon ami et que je suis son ami, je devrais lui rendre un service en retour, donc je lui dois quelque chose. Si nous reportons cette relation de dette entre deux amis à la relation entre l'État et les citoyennes et les citoyens, nous pourrions alors dire que si l'État nous doit quelque chose, c'est parce que nous lui avons rendu un service. Mais quel genre de service pouvons-nous rendre à l'État ? Le fait de l'avoir élu, entre guillemets, le fait de n'avoir pas cherché à le critiquer ? Ces questions nous invitent à percevoir, dans la relation entre la politique et la société, une relation d'échange. Est-ce que ce sont des échanges de bons procédés ? Qu'est-ce que ce quelque chose dans le sujet ? L'État nous doit-il quelque chose ? Est-ce que c'est de l'argent, de la reconnaissance ? Autant de questions importantes sans doute à soulever. Nous en arrivons au troisième sujet du baccalauréat général, à savoir le sujet d'explication de texte. Le texte, je le rappelle, est un texte de Simone Veil, issu de son livre « La condition ouvrière » de 1943. Attention à ne pas confondre avec Simone Veil avec un V, qui était magistrate et femme politique. Avant de formuler quelques remarques à propos du texte, nous pouvons le lire, donc nous pouvons y aller. Toute action humaine exige un mobile qui fournisse l'énergie nécessaire pour l'accomplir, et elle est bonne ou mauvaise selon que le mobile est élevé ou bas. Un mobile, c'est une motivation, c'est une justification pour agir. Pour se plier à la passivité épuisante qu'exige l'usine, il faut chercher des mobiles en soi-même, car il n'y a pas de fouet, pas de chaîne. Des fouets, des chaînes, rendraient peut-être la transformation plus facile. Les conditions mêmes du travail empêchent que puissent intervenir d'autres mobiles que la crainte des réprimandes et du renvoi, le désir avide d'accumuler des sous, et dans une certaine mesure le goût des records de vitesse. Tout concourt pour rappeler ces mobiles à la pensée et les transformer en obsession. il n'ait jamais fait appel à rien de plus élevé. D'ailleurs, ils doivent devenir obsédants pour être assez efficaces. En même temps que ces mobiles occupent l'âme, la pensée se rétracte sur un point du temps pour éviter la souffrance, et la conscience s'éteint autant que les nécessités du travail le permettent. Une force presque irrésistible, comparable à la pesanteur, empêche alors de sentir la présence d'autres êtres humains qui peinent eux aussi tout près. Il est presque impossible de ne pas devenir indifférent et brutal, comme le système dans lequel on est pris. Et réciproquement, la brutalité du système est reflétée et rendue sensible par les gestes, les regards, les paroles de ceux qu'on a autour de soi. Après une journée ainsi passée, un ouvrier n'a qu'une plainte, plainte qui ne parvient pas aux oreilles des hommes étrangers à cette condition et ne leur dirait rien si elle y parvenait. Il a trouvé le temps long. Comme nous pouvons le constater, ce n'est pas un texte facile. Mais nous pouvons y voir certaines choses intéressantes qui font écho à ce qu'on pourrait appeler la condition ouvrière, comme le titre du livre l'indique. Dans ce texte, en effet, Simone Veil cherche à décrire ce que c'est que de travailler à l'usine. Rien de plus concret qu'une usine et que le travail à l'usine. L'individu qui travaille dans son usine a un rapport particulier à son travail. Elle ou il doit trouver les justifications pour lesquelles il travaille, parce qu'il n'est pas contraint de l'extérieur comme le serait une ou un esclave. Or, ces justifications, que sont, dit la philosophe, la crainte des réprimandes et du renvoi, le désir avide d'accumuler des sous, et dans une certaine mesure le goût des records de vitesse, bien que ce soit des justifications qui semblent légitimes, elles virent à l'obsession. C'est cette obsession qui fait maintenir l'individu qui travaille en place. Finalement, c'est tout le rapport au temps de cet individu qui en trouve changé. Celle ou celui qui travaille à l'usine semble s'échapper du temps normal, elle ou il s'y échappe tellement qu'il ne peut même plus avoir correctement conscience de ce qui l'entoure et du système dans lequel il est pris. Pour le dire plus simplement, la condition du travail à l'usine est une condition d'enfermement dans des justifications qui nous enferment. Le temps, le rapport aux autres et au système, tout cela est brouillé pour éviter un maximum de souffrir. Avant de nous pencher sur les sujets du bac technologique, une petite pause musicale semble s'imposer. Nous reprenons donc. La nature est-elle hostile à l'homme? Voici le premier sujet du baccalauréat technologique pour la philosophie. La question met en relation deux termes, la nature et l'homme, dans une relation décidément marquée, soit par l'hostilité. Si nous nous posons cette question, c'est notamment parce que, parmi les catastrophes les plus destructrices, il y a des catastrophes naturelles, comme les tempêtes, les tremblements de terre, les tsunamis, etc. etc. C'est en ce sens que nous pourrions dire que la nature est hostile à l'homme, c'est-à-dire à l'espèce humaine ou à l'humanité en général. Pourtant, si l'on considère la chose d'un autre point de vue, nous pourrions tout aussi bien dire que c'est l'homme lui-même qui est hostile à la nature. À force de vouloir la maîtriser pour cultiver la terre, pour circuler, pour en tirer tout le bien nécessaire à sa survie, l'homme détruit la nature à petit feu. La démarche écologique, qu'elle soit politique ou en général, n'est pas autre chose que d'affirmer que ce n'est pas la nature qui est hostile à l'homme, mais bien l'inverse. Pourtant, et là nous rentrons vraiment dans la réflexion philosophique, pourtant nous pourrions considérer un autre sens du mot « nature ». Nous disons souvent que la nature, c'est tout ce qui se passe à l'extérieur de nous, à savoir les arbres, les forêts, etc., et même aussi les catastrophes, de ce fait. Eh bien, la nature, c'est aussi la nature humaine, c'est-à-dire ce qui définit l'homme profondément. Par exemple, la nature d'une chaise, c'est de pouvoir s'asseoir dessus. Mais qu'est-ce que serait que la nature humaine? Certaines candidates et certains candidats y ont peut-être songé. Et ce serait une manière de retourner la question. Comment la nature humaine pourrait-elle être hostile à l'homme? Autre question que nous pouvons donc nous poser. Nous passons au deuxième sujet du baccalauréat technologique. L'artiste est-il maître de son travail? Autre question intéressante qui ne concerne pas tant l'humanité tout entière que certains individus que sont les artistes. Des artistes, nous en rencontrons tout le temps, notamment lorsque nous écoutons de la musique ou que nous nous baladons dans la rue et que nous tombons sur des peintures, des fresques et même des graffitis peut-être. La question « l'artiste est-il maître de son travail ?» nous invite à penser la relation entre l'artiste et son travail selon la responsabilité ou la capacité à contrôler ce qu'il fait. Cette relation ne va pas de soi, elle n'est pas évidente du tout, puisque même si nous pensons couramment que les artistes, et peut-être même tous les individus en général, sont libres de faire ce qu'ils veulent, ils peuvent être soumis à des influences. Mais le terme « artiste » nous invite surtout à envisager ses spécificités par rapport à tous les autres. Qu'est-ce qui fait qu'un artiste est un artiste ? Le fait qu'il crée des œuvres d'art. Et ces œuvres d'art, qui font partie de son travail, d'où viennent-elles ? Est-ce que c'est l'artiste tout seul qui les a créées, ou bien est-ce qu'il a été influencé, ou est-ce qu'il a trouvé son inspiration chez d'autres artistes ? S'il a tout décidé lui-même et s'il peut vraiment contrôler tout ce qu'il fait, nous pouvons dire qu'il est maître de son travail. Or, si nous prenons en compte les diverses influences et les inspirations extérieures à lui, cette maîtrise peut être remise en question. Et nous voyons bien donc que ce sujet nous invite aussi à questionner la définition même de l'artiste. Nous arrivons à notre dernier sujet pour aujourd'hui, le texte de Platon issu de son ouvrage « Les lois » datant du 4e siècle avant Jésus-Christ, que nous allons lire tout de suite. Il est nécessaire aux hommes de se donner des lois et de vivre conformément à ces lois, sous peine de ne différer en rien des bêtes les plus sauvages. Voici quelle en est la raison. Aucun homme ne naît avec une aptitude naturelle à savoir ce qui est profitable pour la vie humaine en société, et même s'il le savait, à pouvoir toujours faire et souhaiter le meilleur. Car en premier lieu, il est difficile de comprendre que l'art politique véritable doit prendre soin, non du bien particulier, mais du bien général. Car le bien général rassemble, tandis que le bien particulier déchire les sociétés. Et le bien commun, tout autant que le bien particulier, gagne même tous les deux à ce que le premier, plutôt que le second, soit assuré de façon convenable. En second lieu, même si l'on était assez habile pour se rendre compte que telle est la nature des choses, et qu'on ait à gouverner un État avec un pouvoir absolu et sans rendre aucun compte, on ne pourrait pas rester fidèle à ce principe et faire passer pendant toute sa vie le bien commun de la société au premier rang et le bien particulier au deuxième. En effet, la nature mortelle de l'homme le portera toujours à vouloir plus que les autres et à s'occuper de son bien particulier parce qu'elle fuit la douleur et poursuit le plaisir sans tenir compte de la raison qu'elle les fera passer l'une et l'autre avant le plus juste et le meilleur, et, s'aveuglant elle-même, elle finira par se remplir, elle et toute la société, de toutes sortes de maux. Encore une fois, ce n'est pas un texte facile. Généralement, les textes du bac de philo ne sont pas faciles à comprendre, sinon ça serait trop facile. Alors, qu'est-ce que nous pouvons y trouver d'intéressant ? C'est un texte sur la politique et sur l'importance pour nous, en tant que citoyennes et citoyens, d'être soumis à des lois. L'une des spécificités de ce texte, c'est que Platon cherche à savoir pourquoi il faut être soumis à des lois, c'est-à-dire aux lois de l'État. Et l'une des raisons majeures pour lesquelles il faut que nous soyons toutes et tous soumis à des lois, c'est parce que nous cherchons naturellement ce qui nous plaît individuellement. Chaque individu cherche ce qui lui convient à lui, pour lui, sans forcément faire attention à ce qui convient à la communauté dans laquelle il vit. Chaque individu cherche ce qui lui convient à lui, pour lui, sans forcément faire attention à ce qui convient à la communauté dans laquelle il vit. Ma définition du bonheur n'est pas forcément celle de ma voisine ou de mon voisin. Par conséquent, nos intérêts peuvent se contredire, et le but de ce que Platon appelle l'art politique, c'est précisément de proposer aux citoyennes et aux citoyens d'une société un intérêt commun. Rappeler cela, c'est aussi rappeler que les êtres humains ne doivent pas seulement satisfaire tout ce qui leur plaît, mais aussi être raisonnables. Et être raisonnable, pour Platon, c'est être juste et chercher le meilleur. Et donc savoir considérer les intérêts des autres autant que les siens. Et c'est seulement, en tout cas pour Platon, dans ce cas de figure, que nous pouvons vivre ensemble. C'est sur cette remarque que se termine le 9e épisode de l'émission « Ça fait réfléchir ». Nous nous retrouverons dans 2 semaines, toujours le mardi à 10h. Je vous remercie tout le monde pour votre écoute et vous pouvez toujours retrouver cette émission sur le site de radiocampusamiens.fr et sur le DAB+. C'était Julien, votre serviteur, pour votre émission philosophique. Nous nous quitterons en musique. Au plaisir de vous retrouver et à bientôt. We'll be right back.